À voix nue, cette semaine, Michel Simon rencontre Pierre-William Glenn. Ce soir, de la responsabilité de la technique au Festival de Cannes depuis 2003, à l'exercice de la mise en scène.
Pierre-William Glenn, nous avons parlé jusqu'ici de votre travail, évidemment, de chef opérateur, de votre formation, également de votre enseignement à la FEMIS. Aujourd'hui, on va terminer par l'évocation de votre travail comme metteur en scène, qui est un autre aspect de votre personnalité, c'est votre travail au Festival de Cannes, où vous êtes responsable de tout ce qui relève de la Commission supérieure technique, c'est-à-dire en fait de la gestion des projections et de tout le côté technique de ce festival. Donc vous avez été président de cette Commission supérieure technique de l'image et du son, qui est la CST, qui est liée au Festival de Cannes, puisque c'est toujours la CST qui s'occupe de cet aspect technique. Depuis quand, pour vous ?
Ah, pour moi, depuis 2002, j'ai été élu. La CST, ça rassemble tous les techniciens de tous les domaines. Il y a maintenant 5 départements, mais c'est production, exploitation, déco, images et sons. Et il y a pas mal de techniciens, donc tous les 3 ans, ils procèdent à une élection. J'ai été réélu 5 fois de suite, donc pour ne pas faire président algérien, j'ai dit cette année, ça va, j'ai arrêté cette année. Donc ils m'ont gentiment, encore une fois, ça fait partie des satisfactions, c'est que la CST était un petit peu en perte de vitesse. C'est une association qui est subventionnée par le CNC pour remplir des missions de service public, donc, et qui établit depuis les années 40, le milieu des années 40, la régulation du cinéma français, c'est-à-dire le contrôle des salles, le contrôle, la qualité des projections, la qualité des projecteurs et la qualité de la construction des salles qui devait, jusqu'à ce qu'on, ça change il y a 5 ans, devait donner des plans de construction de salles, et la salle n'ouvrait qu'après l'approbation de la conformité de la salle, du plan de la salle avec la construction. Donc ça nous a permis quand même d'avoir le parc de salles. Cette CST, ça date des années du CDR, du comité de résistance, du CNR de 45. CST s'est créé dans les fêtes avant le CNC qui est de 47, il existe objectivement depuis 48, et ça c'est des techniciens de ciné qui veulent que leur travail soit respecté dans sa restitution à l'écran. Donc ça part de quelque chose de très encore de très syndical et solidaire, avec toutes les bagarres contre l'implantation du cinéma américain dans ces années-là, à la fin de la guerre. Et donc le président de la CST et en même temps automatiquement directeur technique du Festival de Cannes. La direction technique du Festival de Cannes, ça consiste à assurer pendant 2 semaines, c'est 11 jours, mais 2 semaines, l'implantation dans le Palais des Festivals, qui n'est pas une salle de cinéma, qui est un lieu de congrès, de spectacle, 40 projecteurs maintenant, 40 projecteurs numériques, leur équipement de son et l'équipement de toutes les salles pour le marché. Et pour le marché, donc, où il y a qui est le plus gros marché de cinéma du monde aussi, et de vérifier la qualité technique, mais artistique, des films qui sont en compétition officielle. En fait, à Cannes, il y a l'équipement des salles, des compétitions de Un Certain Regard, de la Semaine de la Critique, de la compétition officielle. On ne s'occupe pas, bien qu'on s'en occupe quand même un petit peu, de la quinzaine des réalisateurs, qui n'a pas lieu au même endroit, on s'occupe pas de ça, et d'ailleurs les projections à l'ancienne Hilton sont discutables, mais la qualité des projections s'entend, hein, par les projections, et l'aspect le plus difficile, c'est la répétition avec toutes les équipes en compétition, c'est-à-dire tous les films en compétition, il y en a entre 19 et 22, qui sont en compétition, de répéter la nuit avec les équipes, réalisateurs, ingénieurs du son, chef opérateur et la production. Donc ça, c'est toute la nuit. Ça, et avant, les films étaient répétés dans leur intégralité. Avant qu'on passe au numérique, c'était assez toujours tangent. On commence les répétitions vers minuit et demi après la dernière projection. Ça se terminait toujours à 8 heures à l'ouverture de la critique. Et là, maintenant, il y a 1 heure de répétition sur le film. On peut sauter d'un endroit du film à l'autre avec une possibilité de réglage d'image et de son très précise. Notre boulot aussi à CSC, c'est de choisir les meilleurs partenariats et de les proposer au Festival de Cannes, c'est-à-dire projecteurs, images, serveurs, et c'est nous qui supervisons l'installation complète et l'injection de toutes les projections, donc sur le festival. Ce qui est plus dur pour nous à Cannes, la CST, c'est les projections du marché. Il y a, on va dire, dans toutes les compétitions confondues, il doit y avoir 450 projections. Mais sur le marché, c'est souvent 1400-1500 projections dans toutes les petites salles du palais. Et il y a un relais avec les salons villes qui ont passé un deal avec le marché du film.
Il y a 70 projectionnistes, je crois, qui travaillent.
Oui, oui. Alors bien sûr, ça c'est beaucoup. Ça, il y a une réunion des projectionnistes avant. Ça a malheureusement beaucoup diminué avec le numérique, mais c'est toujours à peu près l'idée. On était, quand je suis arrivé au début, quand il y avait une majorité de films 35, il y avait plus que ça, il y avait 110 personnes. Là maintenant, on doit être 70, ouais, à peu près.
Alors cette répétition technique à minuit, donc il y a un échantillon, maintenant ils prennent deux extraits.
Alors il y a ceux qui sont des metteurs en scène, qui sont sur deux et qui savent que c'est quand même, c'est quand même les meilleures projections du monde, et c'est notre image de marque qui est très importante pour nous, c'est de présenter aux Américains, les Français, tout est dû, il n'y a pas de problème, c'est, il n'y a jamais remerciement, mais on a eu Eastwood, Coppola, tous les gens, quand ils voient leur film à Cannes, ils viennent nous voir, ils demandent à être pris en photo avec les équipes aussi, et en disant que c'est les meilleurs, ils verront pas leur film aussi bien en Amérique. Et cette salle est une salle de congrès, donc pour l'équipement du son, ça a été un cauchemar, puisque c'est pas fait pour ça. C'est que vous avez en même temps énormément de projecteurs métalliques, il a fallu calculer les réverbes sur l'ensemble qui est là, et qui envoient tous les ans, on renouvelle toutes les chaînes sonores au tiers de leur vie technique. Je pense qu'on a fait un vrai boulot intéressant. Moi, j'ai fait toutes les répétitions tout le temps. C'est-à-dire, je fais les répétitions, je fais toute la nuit. Donc, ça fait un festival fatigant parce que on a à la CST aussi un partenariat avec une douzaine de partenaires dans les industries techniques qui viennent sur un stand qu'on invite tous les midis. Là, et sur la promotion de leur fabrication et sur la promotion de notre relation. Donc, c'était jour et nuit. Donc, c'est assez fatigant. Je suis content cette année. Je vais n'être que co-prix Vulcain. C'est qu'on a transformé à la demande de réalisateurs qui ne voulaient pas de prix technique. Qui était une vraie connerie aussi, ça a été supprimé.
Oui, parce qu'avant c'était le prix de la
CST. La CST. Alors
ça, maintenant c'est le prix Vulcain. Alors est-ce que vous pouvez
c'est
me dire
c'est le prix artiste technicien. C'est, je répète tout le temps que le métier de cinéma, si on n'est pas artiste et technicien en même temps, on peut pas être technicien sans être artiste et artiste sans être technicien quand on fait du cinéma. Ça me semble toujours un petit peu curieux la différence, mais on a changé. Ça s'appelle le prix Vulcain. On a changé l'intitulé parce que le prix de la CST, il y avait des metteurs en scène qui disaient « je veux pas d'un prix technique pour mon film ». Moi, je préfère faire une projection à Paris du prix Vulcain avec l'ensemble des gens de la CST qui ne peuvent pas descendre à Cannes et d'inviter les gens qui ont le prix. Vous voyez, on a l'art director de Burning, par exemple, qui a eu le prix Vulcain, et comme par hasard, c'était le meilleur film de Cannes, à mon avis.
Il n'a pas eu le prix.
Et qui a le prix, et par contre, l'équipe décoration, ils sont ravis d'être invités à Paris, et de venir au Fauvette, on leur met le prix, et on met un autre accent, quelle est la participation, la contribution la plus artistique, la plus importante de l'équipe technique, donc ça, on voit les films de manière un peu différente, et c'est pas l'auteur, c'est le film. L'auteur, c'est l'ensemble des gens qui le composent. Et c'est encore aussi quelque chose qui a eu un beau renouveau, et je vais moi avoir cette année, 2019, enfin, les 23 films de la production sans rien voir d'autre, parce que je serai président du prix Vulcain cette année.
Justement, Terrence Malick, quand il a présenté qui allait être la Palme d'Or, Tree of Life.
Malick, qui était alors, un fétichiste du film, c'était la première fois où il fallait choisir entre une copie 35 et une copie numérique. Donc il était là avec 4 mecs, on lui a fait une projection spéciale pour lui, dans l'après-midi, en arrêtant tout le... Il a regardé le film en entier, alors c'était rigolo, parce qu'il était très très humble comme ça, puis il m'a dit, on va vous donner une réponse pour savoir si on le passe en 35, et on vous appelle, alors ces 4 types qui étaient autour de lui, on vous appelle d'ici une heure. Ça a pris jusqu'au soir, à la projection officielle, où il n'est pas venu. Ils nous ont indiqué une demi-heure avant qu'est-ce qu'on passait, en disant qu'on passait le film en numérique. Mais En fait, la copie 35 du film, elle avait été faite à Londres, elle était très très mal interprétée, sans les nuances, avec une très forte dominante jaune, je m'en rappelle. Et donc ça, je lui ai dit, écoutez, moi aussi j'aime beaucoup la matière de film, mais là, l'étalonnage de cette copie, c'est vraiment pas ça. Et il m'a dit oui, mais ça l'emmerdait de passer au numérique sur une projection officielle à Cannes. Un type assez étonnant, ça fait partie des... Ouais, quand même des références pour moi. Il est bien passé au numérique, là. Il est bien arrivé.
Alors, est-ce que vous avez des anecdotes sur ces présences de, alors des anecdotes positives ou négatives de présence de cinéastes à minuit pour voir cette répétition?
Il y a ceux qui sont des emmerdeurs patentés, mais qui sont des grands artistes comme Bourges-Ceylan,
Louis Bilger,
le Turc. Oui, le Turc. Il est quand même un sens de l'image tellement poussé qu'on peut pas dire que le mec il connaît rien, qui fait des films remarquables, mais qui à chaque fois veut étalonner le film à la projection, qui dit attendez, est-ce que je peux intervenir sur le projecteur pour changer là le rendu et la colorimétrie. Alors, dit non, mais c'est compliqué. Mais la colorimétrie, on la fait après chaque film. On repart à zéro, on fait des mires et on passe ça. Et moi, j'assiste à tout ça. Donc, je dis là, la colorimétrie, elle est impeccable. Oui, mais là, peut-être que je pourrais intervenir. C'est, il repense qu'il pourrait réétalonner, pas comme il l'a fait. Et on lui donne les normes de projection de Cannes. Et donc, lui, il y a des gens qui sont extrêmement précis, qui savent en 10 minutes, 5 minutes, Ken Loach, il regarde debout. 2 fois 10 minutes, 5 minutes, et puis il dit ça va. Il fait confiance au festival. S'il fait confiance, veut dire à la qualité. Mike Lee, c'est pareil. Il y a des vrais désagréables qui veulent là réellement réétalonner le film. J'ai eu un problème avec Yorgos Lanthimos là, pas facile. Il regardait pas facile quoi. J'ai dit à 5 heures du matin, j'ai dit faut arrêter maintenant. Il y a un film derrière et puis et j'étais considéré comme une brute fasciste parce que j'avais dit au type qui avait fait 3 fois plus de répétitions que les autres qu'on pouvait pas changer la qualité d'une image. Il dit regardez au bout de 13 minutes 37 c'est vert le plan, il est vert, faut retirer là le vert. Je dis non, on peut pas retirer le vert qui est quelque chose que vous avez étalonné. Alors passez sur un autre projecteur. Donc on passe sur un, il y a 3 projecteurs, on passe sur un autre projecteur. Ah oui, celui-là c'est un petit peu plus rose, c'est mieux, vous voyez. Et alors quand on a fait ça 3 fois de suite et qu'il est tard et qu'on a eu 20 heures d'activité, des fois on dit faut que ça s'arrête, des fois. Mais ça m'est arrivé 2 fois. Mais c'est typique aussi des gens pour qui le film, vous savez, quand on a un film, on finit un film et on sait toujours qu'on aurait dû faire autrement, on a envie de refaire le film parce qu'on sait comment on aurait pu faire. Mais ça, c'est faut un moment que ça s'arrête, quoi. Et là, on a souvent ça à Cannes, c'est des films généralement assez, généralement, pas tous, mais intéressants, et avec une grande anxiété des réalisateurs, et d'abord qui arrivent dans un lieu qui est immense, qui arrivent la nuit dans un lieu où il y a 2300 places, qui découvrent une salle face à eux, qu'ils vont voir le film sur un écran de 20 mètres de base, enfin ça fait 19,60 mètres, qui d'un seul coup sont paniqués par l'enjeu. Alors on peut accepter les incertitudes, mais un type qui ne sait pas ce qu'il veut au tournage, qui ne sait pas ce qu'il veut au montage, il ne saura pas plus ce qu'il veut en projection, et j'en ai quelques-uns, j'ai des noms.
Mais non, il y a aussi le problème du son, c'est-à-dire le volume, par exemple, il n'y a pas que l'image.
Ah, le volume de son, il y a les dingues, il y a Kusturica, ces films-là, il est responsable d'un orchestre assez marrant d'ailleurs. Alors là, c'est des trucs de maboule, il voulait nous mettre ça qui fait que c'est au-dessus du sol de douleur, quoi. J'ai dit, mais non, tu peux pas, là, regarde, c'est complètement dément, les chants, les trucs qui vivent. Ouais, tu m'emmerdes, mets ça à 2. C'est complètement fou. Et sur le son, ça a été Lars von Trier. Là, sur la fin du monde, là, il était...
Mélancolia.
Mélancolia, oui. Il était pas là. Il y avait 3 énormes Danois qui étaient autour de moi et qui me disaient, le film, il passe à, alors, largement, mais au-dessus, là, alors, on s'entendait plus bouger, là, puis on a les bras dans le ventre. J'ai dit, je peux pas passer ça comme ça parce que il y aura peut-être des gens qui ont des appareils auditifs, il y aura des Christian Deck, c'est pas possible, et puis c'est contre toute sécurité. Négocier pour descendre 2 décibels, 3 décibels, c'était ridicule. Je leur ai dit, oui, bon. D'accord, ça va. Et puis le lendemain, je suis venu mettre le truc à un truc raisonnable. C'était déjà très fort. En plus, avec des arguments idiots, parce que la puissance là de notre système sonore, sa capacité, c'était la capacité d'aucune salle en France. J'ai dit ça passera jamais en France comme ça, c'est pas possible. On peut pas, ils pourront pas supporter les enceintes Petron. Alors c'est très éprouvant parce que ce qui est ingrat, c'est un peu comme notre boulot de chef op. On est des hommes de l'ombre, il faut pas demander mieux. Mais en même temps, si ça va bien, c'est normal. On est toujours marqué que par la négative. C'est quand ça va. On vous dit jamais c'est bien, sauf les Américains. Sauf les Américains. Images et sons, systématiquement, ils viennent nous voir à Cannes. Mais alors, les Français, avec leurs films, là, où on n'entend rien. Alors, on n'entend rien, on comprend rien. La moitié des films français, on comprend pas le dialogue, on comprend rien. Hein. Pourquoi on a fait deux jours de réunion, de concile là-dessus, de symposium là-dessus? Pourquoi on n'entend rien? Il y a les acteurs qui savent pas parler, et puis il y a les mecs qui disent, c'est pas les metteurs en scène, qui disent c'est pas important, c'est l'âme, c'est pas important qu'on comprenne l'âme de la chose. On a fait deux choses pour essayer d'expliquer pourquoi, à Cannes, les films français, on a un vrai problème, à Cannes et en général, de lisibilité du dialogue. Vous vous rendez compte qu'en France, c'est le seul pays au monde où Rodin, le film de Doyon, il est passé avec des sous-titres français. Donc il y a un dialogue de Lindon, qui est un bon acteur, sous-titré, parce que moi j'y comprenais. À Cannes, j'ai dit je comprends rien. Mais il y a la qualité de l'image et du son dans le cinéma français qui pose un vrai problème. C'est-à-dire d'avoir une image de caractère qui correspond à quelque chose et qui soit pas j'appuie sur le bouton et on enregistre la réalité. Ça, c'est une grosse tendance du cinéma français vers le moins-disant technique, donc artistique, vers une certaine tendance.
Alors, vous avez déjà parlé du numérique. Ça, pour vous, ça a changé des choses, la projection numérique?
Ah oui. Oui, la projection numérique, c'est quelque chose d'évidemment beaucoup plus performant parce que on n'a plus de problème de copie. On n'a plus de problème de copie qui se raye, qui s'use, qui prennent de la poussière. Il y a tout un problème de collure que l'on fait avant, charger pour charger les projecteurs qui n'existent plus. Et on a une projection qui est fixe, qui est stable. Et où théoriquement, si on respectait nos réglementations, le niveau lumineux devrait toujours être respecté. Le problème, encore une fois, c'est les projecteurs numériques et les serveurs numériques demandent un entretien qui est égal à celui du 35 et que c'est pas fait. On dit c'est numérique, donc ça marche tout seul. Et 75% des salles en France sont hors réglementation, hors régulation. Ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on achète des projecteurs et c'est l'installateur qui donne la certification que son appareil il est en bonne forme. Avant, c'était la CST qui allait dans la salle et neutre, public, qui disait donc ça va pas, ça va. Maintenant, on a retiré le contrôle des salles que l'on avait, qui nous faisait tous les ans contrôler 200, 300 salles par an, et c'est pour moi un désastre d'un point de vue technique et artistique aussi. Pour les chefs opérateurs, c'est un désastre. Et donc, ramener une réglementation là-dessus serait difficile, mais et j'ai essayé, et je sais pas encore, un label de qualité CST sur les salles qui respecterait l'image et le son et qui aurait une qualité d'attraction pour les spectateurs. Mais c'est difficile de sensibiliser les gens à autre chose que le récit et le scénario. C'est difficile, les spectateurs. Ils vont dire, c'est quoi l'histoire? Et moi, ma vie, c'est autre chose.
Alors, Pierre-William Glenn, pour terminer, on va parler de votre travail comme réalisateur. C'est-à-dire que si on regarde votre filmographie, entre votre premier court-métrage, Pourquoi pas au Monsieur Freud, qui est de 68, quand vous aviez 25 ans, jusqu'à aujourd'hui, où vous venez de terminer un film tout à fait passionnant, très beau, sur Johnny Hallyday, comédien, qui s'appelle Les Silences de Johnny, puisque Johnny Hallyday a fait une trentaine de films comme acteur, et que vous aviez d'ailleurs dirigé dans un film de 1987 qui s'appelait Terminus. Ce choix de Johnny Hallyday, peu de temps après sa mort, ça correspondait, au fond, je suis sûr, au désir d'Hallyday, qui a toujours voulu être reconsidéré aussi comme comédien.
Oui, il a toujours voulu être comédien, Johnny. Il a été à l'école de la Rue Blanche. Et moi, il m'est venu me trouver en me disant qu'il avait raté sa vie en 86, donc c'était 85, et qu'il avait toujours voulu être comédien. Alors ça m'a semblé bizarre au début. En fait, il a fait le film dans des conditions absolument formidables pour moi, comme motivation d'un comédien. C'est quelque chose qu'on souhaite toujours, d'avoir des gens qui sont aussi engagés à vos côtés. Il s'est entraîné, il a repris une musculation, des Fémus pendant 6 mois. Il a arrêté de boire. Il s'est fait greffer un produit chimique dans l'estomac pour ne pas avoir des renvois quand on approchait de l'alcool de lui. Il a été absolument formidable. Et personnellement, je trouve que sa performance, sa prestation physique, c'était quelqu'un qui était très, très, très cinégénique. Je trouve que on est passé à côté. Ça, c'est le principe de la... C'est le principe de la vocation contrariée. C'est un type qui est reconnu dans un boulot qui n'est pas pour lui ce en quoi il voudrait se réaliser. Et c'est souvent, ça c'est un problème, je dirais, qui est très large, je dirais pas universel, mais ça me fait marrer. Moi, il y a des fois où, là, j'ai quelqu'un qui m'est très cher, là, qui était torero longtemps, et qui m'a expliqué que le metteur en scène du Pontel, il voulait être torero. Donc il était venu le voir, et puis qui lui avait demandé de torer sur des gens qu'on n'attend pas forcément là. Et Denis Podalydès, pareil. Donc il y a toute une idée assez curieuse, mais intéressante, c'est-à-dire des gens qui font quelque chose en pensant qu'il se serait mieux réalisé ailleurs. Et donc pour Johnny, je lui devais le film, parce que j'ai eu une amitié avec lui 30 ans, sur le ciné. C'est l'acteur qui m'a toujours intéressé, c'est le cinéphile qui m'a toujours intéressé. Et ça, peu de gens savent, je veux dire, et l'intelligence du bonhomme, et la culture du bonhomme sur le cinéma. Et que toutes les caricatures qui ont été faites sur lui sont, comme souvent les caricatures, assez, assez dégradantes.
Il faisait installer une salle de cinéma dans toutes les demeures où il habitait.
Oui, c'est un témoignage de quelqu'un qui était très proche de lui, Drucker, qui l'a connu depuis le début et qui m'a raconté. Mais enfin, je l'ai vu, moi, en France et puis là-bas, à Stade. Il a fait installer toutes les maisons qu'il avait, c'était installé autour de la salle de cinéma. Il dit, comment et où vais-je installer la salle de ciné? Là, à Marne-la-Coquette, où j'ai été, moi, pendant longtemps, où j'allais régulièrement voir des films, boire un coup avec lui et voir des films pendant la nuit, il avait 2000 titres. Une salle assez belle, une salle vraiment bien. Alors très très féru, très connaisseur de l'histoire du western, mais ça tout le monde le sait. Mais par contre, presque un collab sur le cinéma noir américain, cinéma fantastique. Donc c'était un homme de ciné. Et l'idée qu'il n'ait pas été reconnu parce qu'il y a un inconscient collectif qui veut le voir chanter sur une scène est assez pénible. Lui, il aurait été absolument... ravi.
Justement, dans le film, il y a Patrice Lecomte qui raconte qu'au Festival de Venise, oui, où il a présenté L'Homme du train, où les vedettes, c'est Jean Rochefort et Johnny Hallyday, le film a été extrêmement bien reçu, et Hallyday lui dit, c'est le plus beau jour de ma vie, et Patrice Lecomte lui dit, mais comment tu as fait des concerts avec 80 000 personnes qui t'acclamaient? Il dit, oui, mais en fait, c'est la reconnaissance comme comédien qui l'a touché.
Directeur, oui. Oui, puis Patrice ajoute qu'il pleurait, mais c'est vrai, c'était triste que les films qui ont été baptisés, sauf quand ils chantent, sauf Jean-Philippe, qui est un très bon film, sauf Jean-Philippe, quand il chante, mais qui est autour de la personne du chanteur Hallyday. Quel serait un monde sans Johnny Hallyday? Moi, je le trouve absolument transcendant dans un film de Laetitia Masson qui s'appelle La Gamine, où il est alors et la présence physique et le dynamisme du bonhomme et la qualité du jeu et la finesse du jeu. La Gamine, c'est formidable. Le Point de chute, ce sont des films absolument... Il faut revoir ces films. Il faut essayer de revoir ces films parce que c'est vraiment... L'Homme du train, c'est évident pour pas mal de gens. Mais tous ces films-là ne sont pas des films qui ont marché sur son image.
Alors, votre premier long métrage, c'était donc, on l'avait évoqué au tout début de cette conversation, c'est Le Cheval de Fer, oui. Qui est, donc vous avez fait le scénario, qui est, vous étiez le producteur, qui est donc sur la moto,
oui.
C'est votre sujet, votre pratique, et puis plus tard, vous avez fait Portrait de groupe avec enfants et motocyclette.
Alors, oui.
Ce sont deux films autour de cette passion.
C'est un retour aux sources, parce que mon premier court-métrage, ça s'appelait Pourquoi pas ou Merci Monsieur Freud, c'était sur mon infantilisme profond et mon rapport à la mécanique, c'est-à-dire, c'était une allégorie, mon premier film, c'était un ami à moi, Bernard Martineau, qui a fait des films avec Carlin, qui était avec moi à l'IDEC, et qui avait écrit l'histoire d'un rapport sexuel entre deux personnes quand on était au cours avec Mitri. Et j'ai dit, bah, c'est marrant de retrouver tous ces gestes, d'essayer de faire tout ça sur seulement un type qui va faire de la moto. J'ai dit, c'est assez marrant de faire un truc là-dessus. Donc, l'idée est dans la manière de tourner, dans le montage, de passer du noir et blanc à la couleur, de représenter l'orgasme sur un plan fixe, et puis d'avoir après des plans qui sont une vraie tension de montage et tout ça. C'était assez rigolo. Il n'y avait pas de sous-titres, personne ne pouvait voir. C'était seulement un mec, c'était moi, qui faisait de la moto, qui dévoilait une moto, qui la tripotait un petit peu, qui la faisait partir. Ça se passait pas très bien au début. La moto merdait. Puis après, ça passait bien. Et puis, on arrivait...
sur la Lune, après un plan fixe et tout, qui était assez marrant. Le film a bien fonctionné, pas du tout sur le sujet, puisque c'était seulement une suggestion pour moi, c'était marrant. J'ai fait, après, Le Cheval de Fer sur un an, sur le rapport au risque qui, je pense, est le mien, c'est le rapport à la mort, c'est le rapport... L'idée, à ce moment-là, les gens mouraient beaucoup sur les circuits. Et d'ailleurs, tous les types qui ont tourné dans ce film-là sont morts à peu près à 80%. Et après, ça m'a semblé, là, il y a 8 ans, de revenir aux idées de départ. Pourquoi des enfants de 7 à 12 ans vont dans une école de pilotage et courent et se font mal? Et encore une fois, là, ce qui était le côté génial du film, c'était que j'avais deux filles formidables, à qui je suis toujours en relation, et qui étaient deux gamines. On aurait cru, il y en a une, on aurait cru un petit papillon, on aurait cru que c'était assez dément, qui était extrêmement rapide et qui pensait qu'elle allait être championne du monde. Donc je t'ai fait raconter un peu toute l'idée du fantasme et de la force que donne une moto, de la force, le prolongement du corps et tout ça, qui sont des sujets extrêmement intéressants pour moi, en tout cas.
Il y avait aussi parmi vos films Les Enragés, qui est un film de 84, écrit par Gérard Brache,
oui,
sur un sujet très brachien, si j'ose
très
dire,
brachien,
puisqu'il
oui
a travaillé avec Polanski,
oui,
sur deux loubards dans une maison qui tiennent captive une star jouée par Fanny Ardant,
oui,
qui joue un peu son propre rôle.
Oui, une vedette déprimée. En plus, ça correspondait très bien, puisque on m'avait prévenu au début que Truffaut mourrait pendant le tournage, et donc il y avait tout un côté déprimé réellement, mais enfin, j'ai beaucoup utilisé. C'est une fille formidable, Fanny, extrêmement, extrêmement malléable, très, très intelligente, sauf qu'il y avait des problèmes, encore une fois, physiques de tournage. Elle s'évanouissait souvent dans les scènes, sans simulation, sans rien. Donc, ça a été assez difficile, mais là, j'ai été manipulateur, mais j'ai pas eu à taper sur les acteurs comme Piala ou à les insulter. J'ai eu une tension entre Jean-Roger Milhaud et François Cluzet, dont c'était les débuts, qui était tout à fait violente, physique. Et l'enjeu, là, de Fanny Ardant a été formidable. C'est que c'est leur idole. Et en fait, elle prend le pouvoir. C'est elle qui est la personne forte de l'histoire. Elle prend pouvoir sur leur esprit. Dans le jeu Dominateur-Dominant, elle est typiquement Brache. Et très bonne expérience, très fatigante. Très fatigante, parce que les trois personnes étaient intenables. Jean-Roger Milhaud, acteur de génie, et Cluzet, moins génial, mais très pervers, donc c'était tout à fait, à cette époque-là, il y a eu un problème, couple à trois, avec moi, donc chacun qui voulait s'occuper, et ça m'a donné, encore une fois, l'idée de que j'étais bon dans le rapport avec les acteurs. Je suis arrivé à faire des choses extrêmement intéressantes, d'ailleurs tout le monde l'a reconnu, le film est sorti comme il fallait pas, il faisait moins 20, c'était un pari de Berry de donner à Brache la possibilité d'écrire Manon des Sources et puis Jean de Florette. La condition de Brache, c'était qu'il tourne ce film-là.
Merci.
Et j'ai été choisi, comme à ce temps-là, par un vrai producteur qui était Berry, qui a dit c'est lui, et en trois jours, j'étais parti sur le film.
Merci beaucoup, Pierre-William Glem, d'avoir parcouru toutes ces expériences de cinéma tellement différentes et les nombreuses casquettes que vous avez portées pendant votre vie professionnelle. J'ai envie de vous dire chapeau.
Donc. Merci beaucoup, Michel Simon.
Fin de cette rencontre de Michel Simon avec Pierre-William Glen. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Jean-André Gianecchini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.